Assure efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée, Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Passer du corps d'enfant à celui de femme, l'adolescence est une véritable métamorphose et celles qui la vivent disposent rarement de toutes les clés pour en comprendre l'ensemble des ressorts. Ces changements physiques et émotionnels appellent pourtant des explications pour éclairer celles qui ne sont plus des petites filles sans se sentir complètement femme. Questions sur la puberté, le corps, les seins, les règles, la pilosité. Questions sur les sentiments, les émotions, l'amour, la séduction, la sexualité, la contraception. Certaines de ces interrogations peuvent se confier à une mère, une tante, une sœur, mais d'autres sont plus intimes et relèvent de tabous difficiles à aborder, des secrets, des non-dits, des peurs qui ouvrent la porte à des fausses croyances qui peuvent, dans ce domaine très sensible, se révéler préjudiciables. D'où l'importance de formuler ces questions et d'y donner des réponses adaptées. Informer les adolescentes dont le bien-être dans ces jeunes années va servir de fondation pour leur santé physique et psychologique dans leur vie de femme. Question d'adolescente, c'est le titre du livre que vous venez de signer. Docteur Diane Vinaver, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, cofondatrice de la Société française de gynécologie obstétrique psychosomatique et votre guide est publié aux éditions In Press. Avec nous en studio également, Stella Tiendrebeogo, bonjour. Vous êtes psychologue, sexologue à Paris, également autour de cette table avec nous, le docteur Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar, au Sénégal. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, médecin sexologue. Toutes vos questions, bien sûr, vous pouvez nous les poser. Adolescentes, appelez-nous donc pour ces questions. Le numéro, c'est le 33 84 22 75 75.
RFI.
Mon corps, ma sexualité, l'amour, c'est le sous-titre de votre livre, docteur Diane Vinaver. Toutes ces questions que se posent les jeunes filles, vous l'écrivez dès les premières pages. La première chose, c'est d'appréhender cette période particulière, l'adolescence. On doit d'abord définir quelle tranche d'âge est concernée.
C'est quasiment impossible parce que cela dépend de la maturité et des personnalités des gens. Finalement, autrefois on disait l'adolescence s'arrête, commence au moment où les règles arrivent et se termine à partir du moment où l'adolescente est autonome, n'a plus besoin de... est autonome. Aujourd'hui c'est plus difficile parce qu'on sait très bien quand elle commence, c'est avec les premières règles. Mais même avec les premières règles, c'est pas vraiment le critère sur le plan de la maturité psychologique. Il y a des filles de 10 ans qui ont leurs premières règles, ce sont encore des bébés, et d'autres qui ont leurs premières règles à 16 ans, tout à fait normalement, et ce sont déjà des femmes et elles sont vues comme telles par l'entourage et sur le plan intellectuel et sur le plan affectif.
Des repères qui bougent, docteur Abdoulaye Diop, est-ce que l'on désigne comme adolescente des tranches d'âge similaires, on va dire, au nord et au sud? Je dirais qu'à partir, en général, on associe ça un petit peu à l'âge scolaire également, on va dire l'entrée au collège un petit peu plus tard, 12-13 ans, et puis à la limite le passage du bac, on va dire c'est à peu près la fin de l'adolescence, 18 ans. Schématiquement, est-ce que les mêmes tranches d'âge sont concernées pour votre cas particulier à Dakar au Sénégal?
Physiologiquement, c'est la même chose, que ce soit une adolescente à Paris ou une adolescente à Dakar. L'âge de la puberté peut survenir entre 12, 13 ans, 10 ans même parfois pour une puberté précoce, et ça peut aller jusqu'à 16 ans. Mais la puberté, ce n'est pas seulement ces changements anatomiques que l'on peut voir ou physiologiques dans le corps de la femme. Il y a tout cet aspect psychologique à prendre en compte. Et c'est là où, comme l'a dit ma collègue, c'est difficile de donner une définition précise de l'âge d'apparition ou de début de la puberté.
On pourrait mettre ça sous le terme d'éveil. Éveil aussi, faut répondre à ces questions. C'était là, Tienbré Beogo, interrogation des jeunes filles sur le corps, elles sont très nombreuses, on va le voir pendant toute cette émission. Justement, beaucoup de découvertes, beaucoup de changements, et précisément, c'est primordial d'apporter des réponses justes, parce que quand on a les mauvaises réponses à des questions qui sont tout aussi justes, eh bien on peut aller dans des chemins qui peuvent être même dangereux pour la santé.
Complètement. Quand on voit que, justement, comme vous le disiez, à l'arrivée des règles, les premières phrases qui sont dites par les mamans notamment, c'est « maintenant tu as tes règles, arrête, tu ne peux plus jouer avec les garçons, tu ne peux plus être par terre, tu ne peux plus faire comme avant ». Et donc ça envoie un message un peu aux jeunes filles qui est « la sexualité c'est dangereux, la sexualité c'est quelque chose de grave ». Donc là, à ce moment-là, on va voir qu'elles entrent dans une sorte de fantasme. Elles vont s'imaginer que la sexualité, c'est quelque chose qui est pas fait pour elles, quelque chose qui est négatif et quelque chose qui est sale, notamment.
Avec une transmission, on peut dire, qui va plus vers l'interdiction que vers l'information.
Totalement. Totalement.
Docteur Diane Vinaver, longue expérience à l'écoute des femmes, des jeunes filles. Est-ce que les questions des adolescentes d'aujourd'hui sont les mêmes que celles qu'elles se posaient il y a 15 ou 20 ans?
Exactement. Sauf que il y a une permissivité beaucoup plus grande dans les questions. Et beaucoup de jeunes filles viennent pour poser leurs questions. Alors qu'autrefois, la question venait beaucoup plus tard, après tout ce qui était médical. Et ça, c'est très amusant. Mais finalement, les questions sont posées.
Et les questions sur la sexualité en particulier?
Sur la sexualité, essentiellement, c'est plus facile aujourd'hui qu'autrefois, mais ce sont à peu près les mêmes questions. C'est ça qui est intéressant.
C'est-à-dire que vous êtes gynécologue. Les jeunes filles qui viennent vous voir, elles vous voient comme un docteur du corps, de leur intimité, mais également, peut-être aussi, comme une forme d'éducatrice à cette sexualité.
Tout à fait. Mais pour ça, il faut que la relation s'établisse. Et c'est ça qui est capital, parce que si on fait une consultation, toutes les questions, les réponses, vite fait, bien fait, la fille n'a pas le temps de parler. Très souvent, la jeune fille commence à parler quand elle se sent en confiance. Donc c'est une consultation pour laquelle il faut du temps. Il faut se donner du temps et il faut avoir de l'écoute. Et je pense que c'est capital, ça, la relation entre le médecin ou le sexologue, l'obstétricien et son soignant.
Et y compris des fausses croyances, docteur Diane Vinaver, par exemple des toutes jeunes filles qui vont penser que lors d'une première consultation chez le gynécologue, on va avoir une auscultation, on va dire, intime, alors que ce n'est pas le cas. Il y a le temps de la parole, il y a le temps de l'écoute, il n'y a pas forcément tout de suite des gestes qui peuvent être considérés comme intrusifs dans le corps.
Je suis complètement d'accord. Et très souvent, des patientes, et je vois que ça a été une question d'une patiente, très souvent, les patientes nous demandent, les mères, à quel âge je dois vous amener ma fille? Eh bien, il n'y a pas d'âge. Et c'est complètement inutile d'amener chez une gynécologue pour un examen une fille qui ne se plaint de rien. Qu'on lui fiche la paix et qu'elle vive sa vie. Et les frottis ne sont plus faits non plus comme ils étaient faits autrefois. Tout de suite, dès le premier rapport sexuel,
on attend 25 ans.
On les commence à 25 ans.
Exactement.
Donc voilà.
Docteur Abdoulaye Diop, question intime, hein, dans certaines cultures, d'ailleurs partout. Hein, c'est pas parce qu'on est à Paris qu'on va poser franchement des questions sur la sexualité à sa mère, hein, loin de là. Docteur Diop, par contre, des questions carrément taboues, impossibles à aborder avec les parents. Sexualité, on n'en parle pas. Là aussi, on a cette notion davantage d'interdit que plutôt que parler d'information à la sexualité.
C'est culturel chez nous, de notre côté, culturellement parlant, pour un parent parler de sexualité à ses enfants, c'est assez mal vu, même si ça change peut-être un peu avec notre génération, on aborde un peu les choses de manière plus frontale avec nos parents ou avec nos enfants. Culturellement parlant, on ne parle pas de sexualité. Donc la question de la sexualité, elle est abordée toujours sur le point de vue des interdits. Donc les phrases que l'on sort en général à sa jeune fille, à sa fille qui a 12 ans, 13 ans, commence à avoir ses règles, c'est attention aux garçons, s'ils te touchent, tu peux tomber enceinte. Donc c'est un peu, oui, le message en fait, il doit être décodé. C'est vrai que dans notre culture africaine, on a toujours l'avantage, on a toujours utilisé des métaphores pour pouvoir parler de certaines choses, mais dire à une jeune fille qu'à partir de la puberté, fais attention aux garçons parce que sinon tu vas tomber enceinte, il y a tout un non-dit derrière, n'est-ce pas? Et parler de la sexualité ou parler, aborder le sujet de la puberté même chez la jeune fille par rapport à ses règles, lui expliquer un peu comment ça se passe, parler du sujet de la contraception, ce serait peut-être perçu comme donner un aval à un début de la vie sexuelle. Donc ça n'est pas fait. donc résultat des courses, aussi bien les informations minimalistes que la fille doit avoir par rapport à son propre corps, à ses mécanismes de survenue des règles et autres, que les questions liées à la sexualité, à la grossesse indésirée, etc. Ces questions ne sont pas toujours abordées, en tout cas pas par les parents.
Mais elles ne sont pas toutes naïves, ces jeunes filles, docteur Diop, quand leur mère leur dit ne te laisse pas toucher par un garçon, sinon c'est la grossesse, toucher même au sens tactile, hein, toucher la peau, toucher le bras. Elles sont pas naïves, elles savent très bien que derrière tout ça, c'est un mensonge de maman pour éviter d'aller plus loin.
Exactement. Ce que les parents, en fait, oublient, c'est que parfois, leurs enfants sont beaucoup plus informés qu'eux par rapport à ce sujet de la sexualité ou de la puberté que les parents ne veulent pas aborder. N'est-ce pas? Et justement, les autres canaux d'information, notamment les réseaux sociaux par rapport à ça, l'école même où il y a des cours d'éducation à la vie sexuelle ou d'éducation à la vie familiale que l'enfant a eu durant son cursus scolaire, l'ont peut-être parfois un peu préparé à certaines questions que le parent alors lui, il a un peu peur, entre guillemets, d'aborder par rapport à avec son enfant.
Vous restez avec nous, hein. On va tout de suite donner la parole aux auditrices de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et la première de ces auditrices, c'est Camille. Elle est en ligne d'Espagne, de Barcelone. Bonjour Camille.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Écoutez, vous avez en partie répondu à la question. Hein. C'était ce premier pas pour le gynécologue. Et dans ce qui m'intéresse concrètement, c'est une jeune fille de notre famille qui a maintenant 20 ans. Qui a des relations depuis un certain temps, qui se débrouille toute seule. Si elle a une mycose pour aller acheter une crème ici en Espagne, c'est d'un accès plus facile. Et de la grande difficulté, vu la famille déstructurée, pour réussir à lui donner une approche du gynécologue où elle puisse se sentir sûre et y aller, enfin accepter le premier rendez-vous. Je ne sais plus tellement comment m'y prendre pour la convaincre.
Mais pourquoi vous avez tellement envie ou besoin que cette jeune femme aille voir un gynécologue? C'est pour sa santé? Vous êtes inquiète pour sa santé intime?
Oui, parce que elle a 20 ans et c'est une personne qui maintenant travaille, a travaillé même en discothèque, etc., qui a des relations. Dans un sens, tout va bien, mais c'était surtout la question de la contraception, c'était la question de pouvoir lui donner les produits adéquats si elle a une mycose, parce que je la vois se promener avec des crèmes, et qu'elle puisse avoir un espace pour elle pour en parler. Mais elle reste complètement braquée là-dessus. Donc c'était pour voir un petit peu quels sont les arguments une fois que la vie de la jeune femme est bien enclenchée pour qu'elle puisse rencontrer dans le gynécologue un espace d'intimité où elle se sente bien.
Docteur Diane Vinaver, pour vous, c'est indispensable pour quand vous entendez ce témoignage, cette jeune fille a vraiment besoin d'aller voir un gynécologue et si la réponse est oui, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour l'y inciter?
D'abord, ce qui serait intéressant, c'est qu'elle ait une connaissance des vaccins, qu'elle sache que c'est, qu'elle ait de l'information importante, qu'elle sache que c'est exactement la contraception, les préservatifs, le sida, enfin toutes les maladies sexuellement transmises. Ça, il faudrait s'en assurer d'abord. Et ça, elle peut le faire, si elle veut pas voir de gynécologue, dans des centres qui sont réservés aux adolescentes, et il y en a plusieurs, il y a Fiche Santé France, il y en a d'autres, il y a le planning familial à Paris, enfin en France, et ça c'est très utile.
D'aller voir d'autres interlocuteurs, pas directement
si elle
forcément
n'a pas envie
le cabinet,
gynécologue,
le
si
cabinet
elle...
médical. Ça arrive souvent des femmes ou des jeunes filles qui sont rétives, comme ça, qui disent non, le gynéco c'est pas pour moi, c'est quoi ce qu'il y a derrière? Il y a un tabou?
La peur, d'abord il y a une pudeur, il y a la peur de se déshabiller et de montrer son sexe. Et puis, il y a peut-être des choses qu'elle trouve anormales et dont elle n'ose pas parler, qu'elle n'ose pas montrer. Donc, et ça se voit souvent, ça.
Et ça pourrait donc lui faire du bien d'être aussi rassurée par un médecin.
Oui, mais ça serait bien qu'elle parle à un gynécologue, même qu'il y ait une approche au moins verbale, s'il n'y a pas d'approche gynécologique médicale.
Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, Camille, la consultation ne va pas passer forcément par l'examen intime. Expliquez peut-être aussi cela dans un premier temps à cette jeune femme.
Oui, c'est ce que je dis
oui,
toujours.
Oui, parce que je vois que les années passent, en fait, et elle reste à gérer ce que je trouve fort bien, sa jeunesse, ses relations, etc. mais finalement, elle n'a aucun référent. Donc, même si elle est débrouillarde, elle est intelligente, etc., j'aurais aimé quand même qu'elle puisse avoir un suivi de temps en temps, même si c'est elle qui le décide, évidemment.
Oui, à 20 ans, c'est à elle de le décider. Merci beaucoup, Camille, de cet appel de Barcelone. On va partir maintenant pour la République démocratique du Congo. En ligne de Kinshasa, c'est Andrade. Andrade, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Andrade.
J'aimerais savoir... Si l'utilisation des calmants pendant les règles douloureuses n'est pas interdite.
Alors, vous avez des règles douloureuses depuis combien de temps? Et autre question, vous avez quel âge?
19 ans.
Et vous avez des règles douloureuses depuis combien de temps?
Depuis 2 ans déjà.
Et vous en avez parlé à un médecin?
Non.
Et vous prenez de vous-même des médicaments pour calmer ces douleurs?
Oui.
Ces douleurs, elles vous empêchent par exemple d'aller à l'école? Elles vous empêchent d'avoir une vie sociale? Ou c'est juste quelque chose dont vous vous plaignez en famille, avec vos amis? C'est quoi la portée précise de ces douleurs?
Oui, ça m'empêche même d'aller à l'école.
Alors, docteur Abdoulaye Diop, qu'est-ce que vous pouvez dire à Andrade par rapport à ces règles douloureuses?
Ça pose la question de la gestion des règles douloureuses. Dans nos cultures, nous pensons qu'avoir des règles douloureuses, c'est normal. Or, avoir des règles douloureuses, ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Ça peut être normal dans certains nombre de cas, dans certains cas, mais parfois, ça peut cacher une pathologie sous-jacente. Donc, par rapport aux parents, je pense que là, amener la jeune fille en consultation chez un gynécologue ou un médecin ou même une sage-femme, c'est indispensable, déjà pour voir effectivement quelle est la cause de ces règles douloureuses. Je n'encouragerais pas cette automédication de prendre directement des médicaments contre les règles douloureuses sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais le médecin, il examinerait la jeune fille, Andrade, et lui proposerait probablement une échographie pour avoir un peu une idée de la cause de ces règles douloureuses. Il pourrait lui proposer peut-être un traitement plus efficace par rapport à la cause de ces règles douloureuses. Donc une consultation gynécologique s'impose dans ce cas, je pense.
Andrade, est-ce que vous en avez parlé autour de vous? J'imagine que vous êtes encore à la maison avec vos parents. Est-ce que vous pouvez, par exemple, en parler à votre maman pour qu'elle vous accompagne chez le gynécologue?
D'accord.
Voilà, je pense que c'est le conseil du docteur Diop, la meilleure chose à faire. Si vous avez justement ces douleurs gynécologiques, c'est d'en parler à un professionnel. C'est ce qui c'est, première question sur les règles. C'est vraiment une question récurrente chez les adolescentes, faute d'information, parce qu'il y a aussi toujours beaucoup de tabous sur cette question. Stella Tiendré Beogo, justement, rassurer les jeunes filles, c'est essentiel quand surviennent les règles, qu'elles soient d'ailleurs douloureuses ou non, c'est essentiel.
Tout à fait. Et je pense que, pardon, ce qui est essentiel aussi, c'est de donner la définition, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les règles? Parce que finalement, on grandit. On sait qu'il y a un tabou autour des règles, mais finalement, on grandit sans savoir ce que c'est. Donc déjà, leur dire que les règles font partie de la vie, que c'est quelque chose de naturel, que ce n'est que, entre guillemets, l'évacuation de la muqueuse interne de l'utérus, qui se prépare à l'accueil d'un enfant, et dans le cas où il n'y a pas eu fécondation, ben, ce sang est évacué par le vagin. Donc déjà, dire en quelques phrases ce que c'est les règles déjà.
Mais pour bien vivre justement cette période du mois, la difficulté, c'est que quand il n'y a pas d'information, je vais être concrète, il n'y a pas forcément d'équipement. Donc les jeunes filles se retrouvent démunies, sans serviettes, sans protection. Et là, dans la vie sociale, pour aller à l'école, c'est carrément la catastrophe.
Tout à fait, on voit des choses assez extraordinaires. Elles regorgent de d'imagination quand il va s'agir des règles. Et on voit des personnes qui vont mettre des éponges, des morceaux, des feuilles. Moi, j'ai déjà entendu parler de tout ce qui est ciment. On va créer des pâtes pour essayer de boucher.
Donc des choses très préjudiciables pour la santé.
Exactement. Et donc, c'est ce qui nous montre à quel point les règles, c'est tabou. On a une phobie de la tâche. Voilà, qu'on voit et qu'on
aussi
sache.
Aussi en termes d'image, de honte qui est véhiculée d'ailleurs depuis très longtemps, d'ailleurs dans toutes les civilisations. On va prendre en ligne Jeyna, une autre auditrice, elle est en ligne de Dakar au Sénégal. Justement, elle voulait nous poser une question sur ce sujet. On vous écoute, Jeyna.
Oui, moi je voulais savoir par rapport aux protéines libres déjà, l'utilisation des protéines libres durant une période hors des règles. Et en plus, comment faire le choix entre les serviettes hygiéniques? Parce qu'on nous dit qu'il faut prendre les serviettes hygiéniques avec du coton, telle matière, on entend beaucoup de choses maintenant. Il faut qu'il y ait du bois, du papier doit être de certains papiers. Il y a beaucoup de marques au niveau des supermarchés. Donc, comment choisir une bonne serviette hygiénique pour une bonne... En plus, maintenant, il y a la coupe menstruelle. Comment est-ce qu'on doit tenter d'aller vers les coupes menstruelles, les tester, ça aussi. Mais aussi, je voulais savoir, la troisième question, c'est par rapport au gynéco. Depuis, je fais, moi perso, j'ai fait plusieurs gynécos. J'ai jamais été chez le même gynéco, le gynécologue. Je sais pas pourquoi, mais parfois, je me sens pas en confiance pour rester, pour revenir, refaire la consultation. Donc, voilà.
Vous ne sentez pas en confiance par rapport à ce qui s'est passé en consultation ou simplement, par exemple, parce que ce gynécologue est un homme et que vous vous sentez un petit peu heurté dans votre intimité?
Oui. Non, pas trop heurté, en fait. Parfois, les gynéco-hommes, ils sont très ouverts et tu peux communiquer avec eux. Mais en fait, tu n'arrives pas à dire exactement tout ce que tu veux. Ils n'arrivent pas à trop s'exprimer avec eux, en fait.
Pour vous, ils traitent trop le corps et peut-être pas assez des questions liées aux émotions et à l'esprit, ouais. Je vais dire.
Voilà.
C'est ça. Donc, juste, on va reprendre les questions dans l'ordre. On va d'abord parler des protections hygiéniques. Première question que vous nous avez posée. Docteur Abdoulaye Diop, quand une jeune femme demande « Est-ce que je dois mettre tous les jours une protection hygiénique, même en dehors des règles ?» Vous lui répondez quoi ?
Ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de mettre une protection hygiénique, de mettre un protège-slip tous les jours, alors qu'on n'a pas obligatoirement des pertes blanches. Des pertes blanches qui sortent peut-être pour éviter de tacher le linge, on peut les mettre durant les périodes où on en a beaucoup, mais en dehors de ces périodes-là, je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire une utilisation abusive de ces serviettes hygiéniques.
Avec aussi une interrogation derrière cette question, c'est sur les produits utilisés, un certain nombre de produits chimiques, d'agents blanchissants, de parfums, il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent sur les effets éventuellement toxiques de ces substances.
Exactement, et c'est parce que justement sur le marché, on trouve tout un tas de moyens de protection ou de moyens de gestion des règles allant du très mauvais au très bon, avec une fourchette de prix vraiment très 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 variée, qui fait que la personne a parfois un peu du mal à choisir un peu quelle est la bonne serviette hygiénique à utiliser, tout en sachant que pour choisir sa serviette hygiénique, il faut tenir compte de plusieurs critères, son flux menstruel, la quantité de sang que l'on perd, son budget déjà, parce que ça coûte cher, est-ce qu'on a une vie intime ou pas, selon qu'on veut utiliser une serviette hygiénique externe ou bien un tampon. Il y a la coupe menstruelle dont elle a parlé tout de suite, qui depuis quelques années fait fureur, entre guillemets, si j'ose dire, à Dakar, en tout cas dans le monde, c'est un peu quelque chose qui est remis au goût du jour parce que les coupes menstruelles existaient bien avant l'avènement des serviettes hygiéniques jetables et qui aussi constituent un moyen de protection qui a des avantages certains par rapport à certaines serviettes hygiéniques. Donc vraiment, c'est à la personne de choisir en fait sa meilleure protection.
Mais c'est quelque chose dont on peut parler avec le gynécologue.
Parfaitement, ce sont des sujets qu'on doit même parler avec son gynécologue qui peut vous conseiller, qui peut vous donner un peu quelques lignes directrices par rapport à votre choix. Le choix final vous revient, n'est-ce pas? Et si jamais vous avez des effets secondaires ou des effets indésirables par rapport à l'utilisation de ces serviettes ou de ces protections, c'est le gynécologue qui va un peu vous aider à vous en débarrasser, à vous proposer un traitement.
Alors, Diane Vinaver, docteur Vinaver, est-ce que vous aussi, en consultation, des jeunes filles vous posent des questions comme ça, très concrètes, tout ce qui est lié aux protections hygiéniques, aux flux menstruels? C'est des questions absolument récurrentes chez les adolescentes.
Mais absolument, mais en même temps, parfois, il faut aussi devancer. Celles qu'on voit arriver en enlevant dans leur culotte une garniture, on leur demande pourquoi. Et elles disent, c'est à cause de... J'ai quelques pertes blanches, je veux pas salir ma culotte. Mais les culottes, c'est fait pour être lavées, salies et lavées, parce que ça frotte. Et quand il s'agit de produits avec des produits chimiques, elles ont facilement des mycoses qui disparaissent spontanément quand elles enlèvent ces protections quotidiennes.
Donc on parle justement des flux menstruels, on va aborder tout à l'heure après une petite pause une autre question clé bien sûr, c'est celle à cet âge-là de la première fois, du sentiment amoureux et bien sûr derrière il y a aussi la question du consentement. On va se retrouver juste après cette chanson, une reprise par la grande Sophie de la chanson du film Diabolomante de Diane Curis.
Dans tes classes de lycée, y a tes rêves et tes secrets. tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, dans tes classes de lycée. Il y a du sang et il y a des pleurs, les premières blessures de ton cœur, les premières blessures et les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Café du lycée, faut que tu blaves, que tu mentes, autour des diapos mentes. Quand tu racontes les nuits du dernier été et de tous premiers amants que tu n'as eu qu'en. Y'a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, que tu caches et qu'on condamne.
La grande Sophie Diabolomante, chanson écrite en 1977 par Yves Simon. On retrouve nos trois invités en studio. Docteur Diane Vinaver, gynécologue, cofondatrice de la Société française de gynécologie et d'obstétrique psychosomatique, auteur de Questions d'adolescente, publié aux éditions In Press. Avec nous aussi Stella Tiendré-Beogo, psychologue sexologue, et le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar au Sénégal. Stella Tiendré-Beogo, on parle maintenant de la sexualité, et à cet âge, à l'âge de l'adolescence, c'est bien sûr indissociable du sentiment amoureux. Si les jeunes filles ne parlent pas beaucoup de sexualité peut-être avec leurs parents, c'est parce que c'est pas forcément facile non plus de parler d'amour.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être la première question au moment de l'adolescence. L'amour, comment on va être aimé, comment on va aimer. Les parents pensent surtout, parce qu'ils ont peur que les jeunes ne pensent qu'à ça, à la sexualité, à la génitalité, on va dire. Mais en vrai, les adolescentes et les adolescents pensent à comment je vais me faire des amis, comment je vais sortir avec le garçon ou la fille qui me plaît, comment je vais lui avouer mon amour, et aussi comment je vais rompre. Hein, ça, c'est une question qui revient beaucoup. Comment je vais casser, entre guillemets, comment je vais embrasser, est-ce que j'embrasse bien? Ça, ce sont des questions d'ados avant les grandes questions sur la sexualité.
Et on peut dire aussi la grande question, docteur Diane Vinaver, c'est la première fois. Qu'est-ce qu'on imagine sur cette première fois? Beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension et pas mal d'envie aussi, mais en tout cas, beaucoup de fausses croyances sur cette première fois.
Des fausses croyances, forcément, puisque c'est de l'inconnu. Mais beaucoup de jeunes filles... Il faudrait apprendre aux jeunes filles à écouter leur corps et leurs désirs et pas se laisser influencer par le désir de l'autre. Je vais revenir une seconde sur les mères et les filles. Certaines mères sont très... d'autres sont très invasives, vous savez. Elles veulent tout savoir de leurs filles. Et je trouve ça très, très pénible dans la relation mère-fille. Il y a celles qui font devancer leurs filles avant même qu'elles aient envie. Et ça existe. Pas beaucoup, mais quand même, pas mal.
Poser des questions, c'est pas forcément poser toutes les questions.
Bien sûr.
Sur cette première fois, il y a un point qui est essentiel. Je me tourne vers vous, docteur Abdoulaye Diop. Première fois, le consentement. Aller vers un garçon avec son intimité la première fois, c'est d'abord être d'accord pour y aller. Et aussi, là on va parler d'une question très importante, que ce soit le bon moment pour y aller.
C'est une question qui est très difficile de répondre. C'est quand le bon moment, n'est-ce pas, avoir son rapport sexuel, son premier rapport sexuel, c'est un moment décisif. On a la première fois, il y a pas deux fois la première fois dans la vie, en tout cas par rapport au rapport sexuel. Donc c'est très important peut-être pour la personne de choisir ce bon moment, la bonne personne, et d'être prêt à vraiment sauter le pas et y aller. Sur le plan gynécologique peut-être, mes collègues sur le plateau sont plus outillés que moi pour parler de ces questions sentimentales liées un peu à la première fois. Nous, en tant que gynécologues, en tout cas par rapport à notre pratique quotidienne à Dakar, les questions que nous abordons, que nos jeunes patients nous posent par rapport à la première fois, c'est plus comment va se passer l'acte ou bien la douleur ressentie la première fois. Nous recevons d'ailleurs beaucoup de couples, même si légitimement mariés, qui la première fois, lors du premier rapport sexuel, lors de la lune de miel, ont du mal à consommer leur mariage, à consommer leur union, n'est-ce pas? Tout en sachant que culturellement aussi, il y a parfois des tabous ou des sujets abordés tels que l'existence de certaines verrues génitales qui empêcheraient d'avoir un premier rapport sexuel, qu'on appelle dans notre culture le sotchet, qui évidemment, médicalement parlant, n'existe pas, qui est différent. Les condylomes étant dus, on le sait, à une maladie, une infection, le HPV, mais il arrive régulièrement qu'on reçoive des couples d'âge mûr, n'est-ce pas, 25 ans, 30 ans, qui, pendant toute une semaine lors de la lune de miel, n'ont pas pu consommer le mariage parce que le mari ne sait pas c'est par où qu'il doit passer.
Donc le problème d'éducation, là on a fait l'émission adolescente au féminin, il y a un gros travail aussi sur les adolescents.
Il y a un très 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 gros travail.
Malgré tout ce qu'on croit, hein, on croit qu'ils sont complètement, on va dire, dégourdis, informés, avec son smartphone en main, on est censé tout savoir, tout voir. C'est pas parce qu'on voit l'autre faire qu'on sait faire pour autant.
Il y en a qui sont très dégourdis, mais pour le gros du lot, il y a encore des questions simplistes à se poser par rapport au déroulement même technique de l'acte sexuel.
Parce que ce qui peut paraître absolument incroyable, docteur Diop, c'est qu'il y a même des femmes qui donnent naissance à des enfants, et après cet événement, eh bien, si on leur demande comment est-ce qu'on fait l'amour, et il n'y a pas forcément de mise en relation de cet acte avec ce qu'elles ont connu d'un point de vue amoureux et sexuel.
Exactement, et certaines même tombent enceintes ou ont des grossesses indésirées sur la base de certains, je n'ose pas dire rapports sexuels, mais c'est certains préliminaires un peu poussés un peu trop loin et qui vont peut-être aboutir à des grossesses indésirées. Il nous est arrivé de recevoir en constatation des jeunes filles qui sont enceintes alors qu'elles sont encore anatomiquement vierges, n'est-ce pas? C'est dire un peu que la question de la sexualité, de l'acte sexuel et de le déroulement de l'acte sexuel peut poser problème à un adolescent ou à une adolescente.
Alors on va prendre une autre auditrice en ligne pour répondre à l'une de ces questions. C'est Grâce qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo, justement. Question de cette jeune fille de 18 ans. On l'écoute tout de suite. Bonjour Grâce.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
On vous écoute.
Bonjour. Et en fait, je voulais savoir, parce que d'habitude, j'ai des règles douloureuses, j'ai 18 ans, je n'ai pas connu d'homme. Je veux savoir, est-ce que c'est à cause de la virginité que j'ai souvent des très grandes dysménorrhées ou comment?
Docteur Diane Vinaver, est-ce qu'il peut y avoir un rapport, c'est la question de Grâce, entre le fait qu'elle n'ait jamais eu de relation sexuelle et le fait qu'elle ait des règles douloureuses?
Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a d'autres phénomènes. Mais si les règles restent douloureuses, mon collègue a très bien parlé des démarches qu'il faut faire, ça peut cacher aussi, si ça ne passe pas avec des petites choses bien sûr, ça peut cacher une vraie maladie qu'il faut contrôler, notamment l'endométriose. Donc on ne peut pas laisser passer des règles douloureuses sans les explorer. Mais ce n'est pas parce qu'elle est vierge, je pense, qu'elle a des règles douloureuses.
Et une autre question, peut-être Grâce, après justement cette réponse par rapport à vos cycles menstruels, est-ce que vous avez une autre question à poser à nos invités autour de cette table?
Oui. Bon, la deuxième question était de savoir, comme je n'ai pas encore connu d'homme, je disais, est-ce que ça ne peut pas avoir plus tard des inconvénients dans mes relations amoureuses?
Quoi, d'être vierge à 18 ans?
Oui.
C'est ça votre interrogation par rapport à votre âge et le fait que vous n'ayez pas eu encore de relation amoureuse, qui a un impact sur votre sexualité future.
Non, non, je disais, si je suis dans une relation, maintenant, j'ai peur d'affronter la sexualité. Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est la fausse due à la virginité? Parce que nous sommes en Afrique aussi, connaît des hommes avant le mariage, il y a toujours des candidatons derrière.
Donc là, c'est plus des questions par rapport aux tabous et aux règles imposées, docteur Abdoulaye Diop.
Si je comprends bien sa question, parce que selon l'angle de compréhension de la question, on peut comprendre différentes choses. Est-ce qu'il serait, est-ce qu'il y a une conséquence négative à avoir des rapports sexuels avant le mariage, ou est-ce qu'il y a des conséquences négatives à ne pas avoir de rapports sexuels? Je pense que je ne comprends pas trop bien la question.
C'est assez complexe, effectivement. En tout cas, des rapports, des conséquences sur la santé avant le mariage, c'est lié aux croyances, aux religions, aux règles, et en aucun cas il y a des conséquences sur la santé liées à des choses de cet ordre. Docteur Vinaver.
Je suis tout à fait d'accord.
Il n'y a pas... Est-ce que c'était bien ça le cœur de votre question, oui, Grâce?
Vraiment. Oui, c'était ça.
C'était savoir si c'était mauvais pour la santé de consommer avant le mariage. Oui. Voilà, aussi simplement que ça.
D'avoir des rapports sexuels avant le mariage ou de ne pas avoir des rapports sexuels à un âge donné, n'a aucune influence sur la santé. Mais seulement sur l'idée qu'on se fait de soi et de sa sexualité.
Avec toujours des questions un petit peu ambivalentes, hein, Stella Tiendré Beogo, ce qu'on voit dans les interrogations des adolescentes, c'est à la fois une envie, un désir, et en même temps, parfois, une peur, voire même un dégoût. Comment expliquer cette ambivalence face à l'inconnu?
Quand on entre dans l'adolescence, on abandonne l'enfant qui est en nous quelque part pour aller accueillir tant bien que mal l'adulte en devenir. Donc en fait, c'est une ambivalence qui fait qu'on va se battre avec cette nouvelle personne. On va devoir l'intégrer à nous, se l'approprier, et en même temps, on est un peu nostalgique de notre enfance qu'on va devoir lâcher tout simplement.
Alors là, on a apporté des réponses simples. On arrive à la conclusion de notre échange. Quelque chose de très important, c'est par rapport aux informations pas toujours appropriées qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, justement, quand on n'a pas ces réponses auprès de ses parents, dans l'entourage. Docteur Abdoulaye Diop, où trouver les bonnes sources d'informations quand on est justement en quête de réponses sur la sexualité, sur l'intimité, quand on est jeune, quand on est adolescent?
Si les parents n'ont pas joué leur rôle primordial à savoir donner cette information à l'adolescent ou au préadolescent avant qu'il n'aborde sa puberté, je pense que les acteurs de santé tels que les médecins, les sages-femmes, les gynécologues, les psychologues sont des acteurs privilégiés pour pouvoir donner la bonne information. On voit aussi, heureusement et ou malheureusement, sur les réseaux sociaux, une floraison de sites ou de pages donnant un peu des conseils santé, sexuelle, intimité par rapport à la vie sexuelle. Toutes les informations ne sont pas bonnes. Comme on trouve partout, on peut trouver aussi bien du très bon que du très mauvais. Il faut vraiment pouvoir faire le distinguo par rapport à ça. Les pouvoirs publics aussi ont leur rôle à jouer. Certains programmes d'enseignement, notamment dans notre pays, dispensent ou incluent dès le scolaire, dès le collège, des cours appropriés d'éducation à la vie sexuelle, en évitant peut-être d'utiliser le terme sexuel qui pourrait peut-être choquer les parents, et disent plutôt l'éducation à la vie familiale, tout en sachant que derrière, c'est la santé de la reproduction. Et c'est là où on peut avoir vraiment des informations justes et véridiques par rapport à la sexualité. Donc les sources d'informations sont vraiment diverses et variées.
Docteur Diane Vinaver sera le mot de la fin. Pourquoi une adolescente bien informée, c'est demain une femme qui sera en meilleure santé?
Parce qu'elle aura appris des moyens de protection pour sa santé, pour sa vie gynécologique. Elle aura moins peur de son corps. Elle se l'appropriera. Elle sera peut-être plus heureuse dans sa vie sexuelle, parce qu'elle connaîtra les mécanismes mécaniques, si je peux dire, et affectifs. Et je crois que c'est très important. Et puis peut-être qu'elle élèvera bien sa fille, ses filles.
Et elle lui donnera toutes les informations en temps, en heure, sans être, on l'a compris, trop intrusive. Merci à nos trois invités d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Toutes ces questions à vous, docteur Diane Vinaver, gynécologue, psychosomaticienne, cofondatrice de la Société française de gynécologie et obstétrique, auteur de Questions d'adolescentes parues aux éditions InPress. Merci à vous, Stella Tiendré Beogo, psychologue, sexologue, et à vous, Abdoulaye Diop, gynécologue, obstétricien, médecin, chef à la clinique Nest à Dakar, au Sénégal. C'est le moment de retrouver le docteur Catherine Solano. Bonjour Catherine Solano.
Bonjour Caroline.
Vous êtes sexologue. Aujourd'hui avec vous, on va parler du choc toxique, syndrome du choc toxique. Tout d'abord, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un problème de santé dont beaucoup de femmes ont entendu parler. Parce que quand vous utilisez des tampons hygiéniques pendant les règles, eh bien sur la notice, il y a toujours, même si c'est obligatoire, une alerte sur le syndrome du choc toxique.
Alors, qu'est-ce qui est justement susceptible de se passer ?
Alors, le problème, c'est que quand vous portez des tampons, ça augmente le risque qu'il y ait une multiplication des bactéries qui s'appellent des staphylocoques dorés dans le vagin. Donc ces bactéries elles-mêmes, elles sont pas tellement dangereuses, mais le problème c'est qu'elles fabriquent une substance dangereuse qui est une toxine, et donc c'est pour ça qu'on parle de choc toxique. Donc cette toxine, si elle passe dans le sang, elle vous rend extrêmement malade, et elle peut même être mortelle dans environ 3% des cas. Mais heureusement, je dis que c'est quelque chose de très rare, donc on estime qu'il y a 1,4 cas par an pour 100 000 femmes qui ont leurs règles. Donc c'est quand même très rare, mais ça peut être gravissime.
Alors docteur Solano, hein, très rare, mais mortel, alors mieux vaut être informé. Concrètement, une femme qui a un début de choc toxique, que ressent-elle ?
Elle va ressentir tout à coup qu'elle a une montée brutale de température au-dessus de 38,8. Et puis, elle peut avoir des vomissements, des maux de gorge, une diarrhée, des douleurs musculaires. Et parfois, il y a des étourdissements, une sensation de malaise ou même d'ailleurs, il y a des fois des pertes de connaissance.
Et que doit faire une femme si elle observe un ou plusieurs de ces signes ?
Alors, même s'il y a un seul des signes, par exemple la température, il faut tout de suite retirer le tampon le plus vite possible, appeler son médecin ou se rendre aux urgences de l'hôpital pour être soigné.
Et est-ce que les tampons sont seuls en cause ?
Non, justement, les tampons sont pas seuls en cause. Il y a des risques de choc toxique après une IVG, après un accouchement. Et tous les dispositifs qu'on peut placer à l'intérieur du vagin peuvent être en cause. Par exemple, comme ce qu'on appelle les coupelles menstruelles.
Est-ce que vous pouvez décrire aux auditeurs de quoi il s'agit précisément ?
Alors, les coupelles menstruelles, c'est quelque chose qui sert pendant les règles à recueillir le sang. C'est comme un petit bol, mais minuscule, enfin qui fait quelques centimètres seulement, en silicone, qu'on place à l'intérieur du vagin, qui recueille le sang des règles. Et ça augmente le risque de choc toxique, mais il y a d'autres dispositifs qui l'augmentent aussi, par exemple les caps cervicales ou les diaphragmes qui servent pour la contraception, qu'on met en intravaginal, les éponges spermicides contraceptives, les anneaux vaginaux contraceptifs. En fait, tout ce qui est introduit dans la zone vaginale peut augmenter le risque de choc toxique.
D'où cette question, est-ce que les rapports sexuels favorisent aussi le choc toxique ?
Eh ben non, en fait, pas du tout, parce que c'est le fait qu'on mette un dispositif dans le vagin pendant longtemps qui augmente le risque, parce que en fait, ça fait des tout petits traumatismes de la paroi vaginale. Or, le pénis, ben, il passe pas des heures dans le vagin, enfin, il peut, mais c'est quand même rare que ça dure des heures. Et en plus, surtout, il est extrêmement doux, et on peut dire qu'il est étudié par la nature pour pas blesser le vagin.
Alors, comment soigne-t-on ce choc toxique ?
Alors, on commence, le plus important, c'est doter le dispositif en cause, et puis on place une perfusion à la femme pour passer du liquide, parce que le problème du choc, c'est la fuite des liquides hors du vaisseau, et donc il faut compenser cette fuite de liquide. Et puis, bien sûr, on donne des antibiotiques par rapport à la bactérie qui se multiplie, on désinfecte la zone atteinte, ici c'est la zone vaginale, et quelquefois, comme je vous ai dit, c'est très grave, donc la femme peut être mise en service de réanimation pour un traitement de choc, on peut dire si le choc est grave justement.
Alors, est-ce qu'il y a des modes de prévention de ce type donc de symptômes ?
Voilà, et c'est très important pour prévenir le choc toxique, déjà. Si une femme a déjà eu une fois un choc toxique, elle ne doit pas utiliser de dispositif intravaginal parce qu'elle est à risque de récidive assez élevée. Ensuite, quand on met un tampon ou une coupe menstruelle, il faudrait la garder moins de 4 heures. En tout cas, jamais plus de 6 heures dans la journée. Et la nuit, il vaut mieux éviter d'en porter. Il vaut mieux mettre des serviettes, tout simplement. Ou alors, si on veut vraiment mettre un tampon, il faut le mettre avant de s'endormir et l'enlever dès qu'on se réveille. Et surtout aussi, dernier conseil, bien se laver les mains au savon avant de toucher un tampon, que ce soit pour le mettre en place ou pour l'enlever.
Merci docteur Catherine Solano, sexologue dans Priorité Santé. Priorité Santé donne la parole à ses auditeurs et à ses auditrices. Et c'est Diara, Diara qui est en ligne de Bamako au Mali. Oui. Bonjour Diara.
Bonjour.
Le docteur Catherine Solano vous écoute, posez votre question.
Bon, j'ai un problème à propos de mes règles là. Oui. Ça fait aujourd'hui 4 mois que je ne vois pas. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait l'échographie. Ils m'ont dit que je n'ai rien.
Donc vous n'avez pas de règles depuis 4 mois et vous avez vérifié si vous n'étiez pas enceinte.
Oui, j'ai vérifié ça. J'ai dit que non, que je suis pas enceinte.
Et vous vous interrogez sur la cause de l'arrêt de ces règles, c'est bien ça?
Oui.
Je voulais vous poser une question aussi, c'est quel âge avez-vous?
J'ai 26 ans.
26 ans. Oui, je vous demandais ça parce que quand on vient d'avoir ces règles, moi 26 ans, c'est pas votre cas, vous les avez sans doute depuis une dizaine d'années, mais au début, les cycles peuvent être très irréguliers. Donc il y a des jeunes filles, elles ont pas de règles, disons à 13 ans ou 12 ans, elles vont pas avoir de règles pendant 3, 4 mois, 6 mois. Et au contraire, quand on a 45 ans, mais c'est pas votre cas évidemment puisque vous avez 26 ans, il y a des femmes qui commencent à être en préménopause et qui vont pas avoir de règles pendant 3, 4 mois et puis ça revient. Puis voilà. Donc vous, c'est pas un de ces cas-là. Est-ce que vous prenez une contraception?
Non, je ne prends pas ça.
D'accord. Parce que je signale quand même, c'est qu'il y a des contraceptions qui peuvent arrêter les règles, justement parce qu'elles sont efficaces. Il y a certaines pilules qu'on appelle les pilules progestatives. Il y a beaucoup de femmes, quand elles les prennent, elles n'ont plus aucune règle. Ou le stérilet hormonal, ça fait pareil. Donc des fois, elles sont un petit peu inquiètes, mais c'est parce que ça bloque les ovulations. Donc c'est pas votre cas. Est-ce que sinon, vous avez maigri récemment?
Non. J'ai pas maigri aussi.
Vous n'avez pas maigri? Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes, quand elles maigrissent trop, vous savez, quand on parle de jeunes filles anorexiques, par exemple, ça peut arrêter complètement les règles parce que le corps, les ovaires, en fait, se mettent au repos en se disant, bon, on n'a pas assez à manger, c'est pas le moment de faire un bébé. Donc, repos total. Donc, c'est pas ça. Alors, il y a encore une autre raison qui est assez fréquente de pas avoir de règles, d'avoir un arrêt, comme ça, plusieurs mois. C'est un problème psychologique. C'est quand on a, par exemple, une rupture amoureuse qui fait beaucoup mal. Quand on a un décès d'un proche dans la famille, quand on a un licenciement abusif, quand on a du harcèlement, enfin des choses comme ça, un déménagement même, des choses qui sont à choc, ça peut bloquer les règles. Est-ce que vous avez eu quelque chose il y a 4 mois ou dans les mois précédents qui pourrait expliquer ça?
Oui, j'ai eu un problème avec mon partenaire.
Oui.
Un problème, cette personne vous a quitté ou indifférent, un conflit?
Oui. Il m'a quitté.
Donc, en fait, l'arrêt de vos règles correspond à cette rupture, si on peut dire.
D'accord.
À peu près.
Et puis, j'ai aussi une autre question.
Oui, vous avez une autre question?
Oui.
Bon, à propos de mes poils, là, si je ne rase pas là, j'ai des démangeaisons.
Si vous vous rasez, vous avez des démangeaisons. Vous voulez dire au niveau du pubis?
Oui.
Ben, vous voulez dire si je me rase, j'ai des démangeaisons? Oui, ben écoutez, alors ça fait ça à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai eu l'appendicite. On m'a rasé totalement. Ça a été horrible parce qu'après, j'étais obligée, je me grattais. Je me disais, c'est pas très élégant de se gratter. J'avais 20 ans à l'époque, ça fait très longtemps. Et je me disais, ben c'est pas élégant parce que quand on se rase, ça pique, quand ça repousse, ça fait ça à tout le monde. Donc, vous n'êtes pas un cas particulier. Hein. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. En plus, ça fait des petites coupures, des micro-coupures. C'est pas super bon pour la peau. Donc, c'est pas quelque chose d'anormal. Donc, je vous souhaite vraiment de retomber sur vos pieds moralement et de rencontrer quelqu'un qui vous mérite et qui soit adorable avec vous. Et comme ça, je pense qu'il y a des chances que vos cycles repartent. Bon, vous avez vu que quand on n'a pas de règles depuis longtemps, il faut d'abord se poser des questions médicales quand même. Et c'est seulement quand on se dit tout a l'air normal qu'on dit ça peut être un choc psychologique. Donc une femme qui a un arrêt des règles, faut quand même pas se dire ça doit être psychologique. Faut chercher à savoir si c'est médical avant.
Et éventuellement consulter un médecin.
Voilà,
Catherine,
comme vous l'avez fait, vous avez fait une échographie, vous avez bien fait quand même. Hein.
Merci beaucoup Diarra pour cet appel de Bamako au Mali. Excellente journée. Et on se retrouve demain dans Priorité Santé, nous parlerons des troubles bipolaires.
C'était Priorité Santé, avec Suno Assurance, qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.